Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudeluxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Goodluxe Paris, l'édition de week-end. Et oui, vous le savez, désormais, Goodluxe, c'est tous les jours de la semaine en direct. Je vous retrouve entre 13h et 15h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve Emmanuel Rubin, mon acolyte de toujours et directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, place au céréales restaurateur. En effet, la dynastie Coste n'est plus la seule à animer la scène gastronomique parisienne. Table gastronomique de poche, bistrot, brasserie, chacun ses préférences, mais pour tous, un leitmotiv. La qualité qui se cache derrière des adresses comme Racine, Glou ou encore Chez Savie. Vous le saurez dans un instant avec David Lanner, Julien Foin et Jean-Gabriel Debueil. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goodluxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et les nouveautés de la semaine, à vous l'honneur, comme d'habitude, Emmanuel, avec la table de la semaine. J'ai envie de dire presque la première table de la semaine, parce qu'on va en avoir des tables cette semaine.
Merci, on va vous gâter, hein, que des émissions gastronomiques, c'est bien. Ça s'appelle Aspic, c'est 24 rue de la Tour d'Auvergne. Alors c'est la table typique de la nouvelle garde parisienne, 25 ouverts seulement, ouvert uniquement le soir. Jeune chef, ancien de la finance, ancien de Londres, réenchanté, mais attention, hein, réenchanté dans Grand de Maison, et il est passé par l'école Ferrandi. Il ouvre son restaurant donc, autour de ce fameux menu unique, vous savez, le menu unique, moi ça commence à vraiment me fatiguer, sauf ici. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on impose un menu, soit on préfère le choix au restaurant, mais au moins qu'on ait le talent de composer un menu. Un menu, c'est un glissement progressif, c'est une montée en puissance, faut savoir jouer sur les différentes textures, foutre la satiété. Ici, c'est très très réussi. J'ai le menu avec moi, vous voyez, c'était celui du 9 mars.
C'est simple et efficace. Hein.
Voilà, 9 mars, 7 plats, avec justement un très joli travail de construction. D'abord, les premières asperges.
J'allais nous faire les 7, là.
Allez, très rapidement. Les premières asperges, on les retrouve. Petites asperges vertes, travaillées et refroidies. Ensuite, un macro snack et pickles. Là, une petite bouchée, ça vous éclaire le palais. Sèche, chou-fleur, chorizo, poivron. Là, on est déjà dans le plus construit, plus végétal, plus iodé, plus minéral. Joli travail d'un oignon doux des Cévennes, travaillé en feuille à feuille avec du jambon serrano. Un joli boulot, là aussi éclairant. Ensuite, une vraie belle pièce, le morceau de bravoure. C'est le veau topinambour coq, un mélange terre-mer, moutarde. Là, c'est une vraie belle pièce, de la générosité aussi. Souvent, dans ces menus uniques, c'est des petits plats séquences. On a une bouchée, on n'a même pas le temps de comprendre le plat. Là, il arrive aussi à jouer, justement, avec les portions. C'est ça aussi qui est important dans un menu. On calme le jeu avec un comté. Là, c'est un peu gadget. Il en faut aussi un comté en émulsion avec de la pomme. Et puis, on finit avec du complice, du réjouissant. Un vrai travail sur la ganache chocolat orange sanguine. 7 plats, 43 euros, vraiment bien fichu et pour une fois vraiment un sens de la composition, donc un sens du menu. Bravo.
Aspic, 24 rue de la Tour d'Auvergne dans le 9e arrondissement de Paris. Merci,
l'addition,
ce sera pour la prochaine fois
café.
L'addition et un café. Et moi, je vous offre le petit chocolat final. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, c'est
Pâques.
Et voilà, et donc petite sélection habituelle de chocolat de Pâques dans Goodluxe Paris. Je vais commencer par les plus chics, parce qu'on est quand même dans Goodluxe. D'abord, je voudrais dire, surtout, allez-y, allez dans les palaces, allez chez vos pâtissiers, allez vous acheter de magnifiques œufs. Ils travaillent énormément à leur création de Pâques. Et franchement, c'est toujours un bonheur. J'ai fait une toute petite sélection et on salue tous les autres. Donc, je commence ma sélection. On va au Parc Hayat Vendôme. Le chef Fabien Berthaud a été inspiré par Saint-Pétersbourg et les œufs de Fabergé. Donc, on a quelque chose de doré, tout simplement, avec juste ce petit lassage autour, c'est absolument sublime. Il est simplement exposé, mais c'est un joyau.
Et c'est un hommage à la place Vendôme, hein. Le Parc Hayat Vendôme, il est tout prêt.
Et c'est en édition limitée à partir d'aujourd'hui. Je vous donne pas le prix, mais forcément, c'est à l'avenant. On est sur une très belle pièce. Et justement, parce qu'ils travaillent énormément, les hôtels là-dessus, au Prince de Galles aussi. Là, ils se sont inspirés par la déco de Pierre-Yves Ronchon. Et donc, on a l'œuf de Nicolas Pacciolo. C'est important de citer à chaque fois les chefs pâtissiers. Et avec, en son cœur, un petit angel cake en plus. Donc, non seulement vous avez, on dirait, cet œuf habillé de laurier de César.
Des feuilles de laurier dorées, hein.
Exactement.
Qui construisent un œuf comme si elles avaient été assemblées.
Et à l'intérieur, la petite pâtisserie. Donc, en plus, vous avez un 2-en-1 au Prince de Galles. Je poursuivrai.
Mission limitée, hein, 30 pièces seulement.
Eh ben,
pour se dépêcher. Hein.
Exactement. Donc, vous y allez maintenant, vous réservez votre œuf. Je vous en propose d'autres après, juste après Web de Luxe.
Goodluxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour. Bonjour. Et vous arrivez toujours au moment, si j'ose dire, avec un petit œuf, mais envie d'une belle bouteille.
De champagne.
De champagne, bravo.
Et c'est tant mieux, puisqu'en fait, la maison de champagne Krug mène une seconde campagne digitale, la première qui est toujours en cours, qui consiste en fait, si vous voulez, à scanner votre code, le code qui se situe derrière votre bouteille de champagne, pour débloquer tout un tas de contenus, donc l'histoire de votre bouteille, en savoir un petit peu plus sur l'année qui la compose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'était la première opération digitale. Aujourd'hui, ils ont mené une nouvelle opération qui est liée à Twitter. Là, ils ont créé 800 contenus aléatoires. Quand on va rentrer ce qui s'appelle le Krug ID en tapant hashtag Krug, eh bien, on va débloquer tout un tas de contenus. Là encore, ça peut être des vidéos de vendange, des vidéos musicales pour développer tout ce qui va être son et sensoriel, comment l'odorat, le goût, le palais, tout ça, parce qu'apparemment quand on écoute une certaine musique, eh bien le champagne n'a pas le même goût. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est sur la maison Krug et sur le Twitter de la marque.
Ils sont très très forts, Krug, cette vénérable maison Krug qui appartient à LVMH, c'est une ancienne maison, mais ils sont très en avance sur ce qui se passe sur le digital.
Sur l'événementiel.
Olivier Krug a même son propre compte Twitter. Donc voilà, on les salue. Et bien sûr, l'abus d'alcool.
Et donc, je veux la santé.
Et à consommer avec modération. Allez, un nouveau service, Ikitag.
Oui, Ikitag. Alors, qui fait partie de la société Kefetch. Et qui, là, va vous proposer de vérifier tous vos achats, vos objets de luxe. Donc, sac, tout ce que vous voulez, sac, que sais-je, montre.
Sac,
chaussures. Voilà, de vérifier si tous ces objets de luxe sont des vrais, ne sont pas des faux. Alors évidemment, on parle évidemment de la revente en ligne, puisque quand on achète en magasin, il n'y a pas de souci normalement. Revente de particuliers ou de professionnels, on vérifie avant l'acte d'achat, ce qui permet aussi d'avoir tout un certificat, si vous voulez, d'authentification de l'objet. Vous allez savoir qui a vendu l'objet, qui a été propriétaire de cet objet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un certificat qui même peut vous servir si éventuellement vous voulez revendre votre objet plus tard. Et voilà, ça légitime un petit peu votre objet,
suivi ça personnalisé,
ça le certifie tout à fait.
Exactement. C'est un nouveau service qui s'appelle Ikitag. Ikitag. Allez, un petit coup de parfum pour terminer.
Un petit coup de parfum sur origine-parfum.com. C'est sur cette plateforme très connue que va être présenté en avant-première le dernier parfum Angel Muse de Thierry Mugler. On l'attend, tout le monde l'attend sur la toile. Ça fait quand même pas mal d'émules déjà présenté dans un espace futuriste. Évidemment, toujours avec cette notion d'écologie, puisqu'on pourra acheter des petites fioles en parfumerie pour recharger votre parfum. Angel Muse pour les nouvelles senteurs du printemps. Tout ça, ce sera sur Origine Parfum, origine-parfum.com.
Merci beaucoup, Sandy Prenois. À la semaine prochaine.
Champagne.
Allez, on poursuit, Emmanuel, avec une nouvelle boutique rapidement.
Enfin, qui existait déjà, puisque c'est la boutique de design du centre Pompidou. Elle avait fermé. Pourquoi? Pour se refaire une bouteille. Il était temps. Alors, ils ont demandé à un jeune architecte intérieur, qui s'appelle Marie Déroudil. C'est une ancienne de Certain Rand Conran, de Patrick Join. Elle a revisité la maison sur les codes, en reprenant les codes de Beaubourg. Donc, bien sûr, du métallique, bien évidemment des couleurs assez vives, assez chaudes. Et puis surtout pour la réouverture, tous les designers et grands éditeurs qui ont été partenaires depuis le début de cette boutique, eh bien, viennent rendre hommage un petit peu à cette maison, soit en proposant quelques pièces iconiques, soit carrément des nouveautés, des créations inédites. Et on retrouve donc durant à peu près un mois dans la boutique design du centre Pompidou, écoutez bien, les frères Bouroulec, Constance Guisset, Sam Baron, Pauline Deltour, maison Vitra, la maison Lexon, bref, tout cela rend hommage avec soit leur pièce iconique encore une fois, soit surtout leur nouveauté en avant-première dans cette boutique pour qu'ils fréquentent Beaubourg et
centre Pompidou.
C'est vrai qu'elle était connue.
Du centre
ça
Pompidou.
Ça lui a fait du bien.
Allez, je termine avec ma petite sélection d'œufs de Pâques les plus originaux. On peut citer par exemple un petit coup de cœur, Jacques Génin qui a travaillé avec la peintre Corinne Jam. L'artiste Corinne Jam, ça s'appelle Tanabata, il y a version chocolat noir, chocolat lait. Il a fait la même chose que l'année dernière, mais c'est toujours magnifique. C'est vraiment
c'est
de la peinture sur œuf. Exactement, du pain main, c'est assez formidable. Un petit nouveau dans notre sélection d'œufs de Pâques, je voulais apporter l'œuf du Grand Véfour. Guy Martin a travaillé aussi l'œuf de Pâques cette année avec du pur Madagascar et puis praliné, ganache framboise, ganache exotique. Il est tout rouge et vous avez cette sorte d'arbre de vie autour. Sauce sobre, sauce chic à découvrir là au Grand Véfour. Et The Westin Paris Vendôme, le chef pâtissier c'est Ken Thomas. Lui, c'est l'œuf de Pâques Quetzalcoatl parce que c'est inspiration mexicaine.
Mexicaine.
Voyez, alors Je peux pas tous vous les citer. Donc
le
là,
Mexique,
on a vraiment
des grands royaumes de la fève et du cacao. Hein.
Exactement.
Je donc sais pas voilà. Pourquoi je dis royaume, une, d'ailleurs, mais enfin,
une nouvelle inspiration. Je vais terminer quand même avec les plus. Parce que c'est aussi une fête pour enfants, évidemment. Le clin d'œil les plus humoristiques, les plus drôles, les plus rigolos.
Plus
il y a le petit jeu de loi de à la mère de famille avec plein de personnages rigolos. C'est ça aussi qui est sympa. C'est qu'on a la poule Adam de Mesdemoiselles et les monstrueux œufs de Tiffany Cooper. Ils ont bossé avec. Donc c'est des Monsieur Patate œufs. Voilà, vous avez toute une
résumé.
Série. Et la poule Adam avec sa brosse à dents. Donc voilà, le petit clin d'œil. Ceux qui sont très forts aussi dans le genre, c'est le nôtre. Eux, ils ont travaillé autour du western avec Billy the Egg, le cow-boy en chocolat au lait, la douce indienne Petite Plume et le tipi dans sa version.
C'est vrai que ça ressemble à des Monsieur Patate.
Gourmande en nougatine.
C'est un peu Toy Story qui rencontre le chocolat.
Alors, c'est vrai que chez le nôtre, voilà, on a le petit cow-boy avec son foulard. Et je termine par, là aussi, des petits nouveaux, les fées pâtissières qui, pour le coup, se sont accoquinées avec la maison Chapon, chocolatier. Et elles ont travaillé le petit œuf de la jungle. On trouve les petits animaux cachés à l'intérieur de l'œuf. Voilà, vous avez l'embarras du choix et le choix de l'embarras. Je ne vous les ai pas tous cités, mais vous aurez de quoi faire. Allez pousser la porte, je vous le disais, des pâtissiers, des palaces, des hôtels.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les palaces sont devenus des chocolatiers.
Exactement.
Comme les autres, les boutiques ouvertes.
Et en plus, ils organisent pour nombre d'entre eux à Paris ou à Versailles, par exemple, des petites chasses aux œufs pour les enfants. C'est dit, c'est le week-end prochain, mais c'est maintenant qu'il faut réserver. J'espère que tout ça vous a mis en appétit, parce qu'on y va. Allez, on
c'est
va tester
fini.
Une série de restaurants. Vous allez voir ça juste après.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et Goodlux dans les coulisses de la scène gastronomique parisienne avec cette nouvelle génération de restaurateurs qui agitent les popotes. Allez, on fait le compte. David Lanner, bonjour.
Bonjour.
10, 11 à peu près, adresses, 11 bientôt. 10 aujourd'hui ouais. Et 11 adresses bientôt. Jean-Gabriel Debeuil, bonjour.
Bonjour.
5 adresses, vous avez peut-être un petit peu plus tard et vous prenez votre temps parce que
non.
Ce sont des adresses historiques.
Oui, je dois être le plus feignant des trois.
Il est long, lui.
Et puis, Julien Foin, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, on en compte 8, mais voilà, avec tout ça, on n'a pas encore compté les vignobles, les boulangeries, les hôtels, voilà, parce que vous ne vous arrêtez pas quand même à la restauration. Allez, tiens, Julien, on va commencer avec vous. Pourquoi à un moment donné, alors vous, c'est votre truc quand même, la gastronomie, depuis un moment, vous
oui.
êtes éditeur, vous avez créé un magazine de gastronomie, ancien journaliste.
Ça met la condition d'en sortir.
Vous baignez là-dedans, mais pourquoi à un moment donné, on reprend une adresse et on se retrouve quelques années après avec 8 adresses
oui. La passion, déjà. Et puis, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Je ne suis pas tout seul, j'ai un associé et on a créé un premier restaurant et on a appris un métier. Parce que j'étais effectivement journaliste et donc ça a été très dur au début d'apprendre ce métier. Je considère souvent que j'ai plus de passé dans la presse, où j'ai travaillé 15 ans dans la presse et dans l'édition que dans la restauration, où ça fait à peine 10 ans. La passion, vraiment la passion et l'envie de développer, de construire avec des gens aussi. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens qui sont très motivés, qui sont jeunes, il y a un moment, si on leur offre pas une évolution, et puis c'est un métier où on s'investit énormément en temps. Et on peut pas tout faire. C'est un métier où il faut être bon partout. Sur l'éclairage, sur la déco, sur la lumière, sur la salle. Donc, on s'entoure. Sur les produits, sur énormément de choses. Donc, on s'entoure de gens. Et quand on s'entoure, il y a un moment, on construit. Et nous, on a construit un groupe. Et aujourd'hui, il y a tous ceux, on a une centaine de salariés, mais il y a tous ceux qui sont sur le terrain, qui font l'opérationnel. Il y a tous ceux qui sont derrière, qui m'aident pour le sourcing du vin, pour le choix des produits, pour tout ce qui est opérationnel, quand il y a quelque chose qui casse dans un restaurant, pour le personnel, tout ça. Donc, c'est une vraie équipe avec qui on travaille aujourd'hui et on grandit ensemble.
Alors justement, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, vous êtes journaliste, journaliste gastronomique, c'est vous qui avez créé le magazine Régal. Vous l'avez dit, vous avez appris un métier, vous débarquez dans ce métier, finalement c'était presque un grand fantasme. Mais qu'est-ce qui, le fait que vous ne soyez pas restaurateur, que vous n'avez pas eu de formation, qu'est-ce que vous avez peut-être eu le sentiment d'apporter de nouveau, ce regard peut-être un peu oblique, que n'ont pas les professionnels de la profession, comme disait Godard?
C'est-à-dire que oui, effectivement, on a apporté peut-être des choses différentes, c'est qu'on s'est placé vraiment dans la peau du client, vraiment très tout de suite. Donc on a essayé de dire aujourd'hui, la restauration, c'est pas simplement ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est aussi beaucoup le service, c'est aussi beaucoup le décor, l'attention de ce qu'il y a, c'est-à-dire que vous allez dans un endroit aujourd'hui, nous on considère qu'on fait une activité de loisir. Je le dis, moi je fais une activité de loisir, je ne nourris pas les gens. Bien sûr qu'on nourrit les gens, mais les gens viennent pas chez moi pour se nourrir, ils viennent pour passer un bon moment. C'est important que ça soit bon, mais si c'est bon et qu'ils sont reçus à coups de lance-pierre et que grosso modo le son il est comme ça dans leur tête et qu'ils mettent 45 minutes pour attendre un plat même s'il est magnifique, au bout d'un moment ça va pas. Donc c'est un tout. Et donc nous on est arrivé en essayant d'offrir une prestation globale avec un peu de naïveté, j'aurais tendance à dire.
Ouais, ça va mieux en le redisant, parce qu'effectivement aujourd'hui ça commence à paraître presque une évidence que vous dites. Il y a encore 10-15 ans, 20 ans à Paris, les restaurants, il y avait quand même à côté, c'était d'abord l'assiette et puis c'était à la va comme je te pousse. Alors il y avait des très bons restaurants, beaucoup de sympathie, mais dans l'ensemble,
alors, il y avait
un service qui était quand même qui te rentrait dedans, fallait pas trop te plaindre, un décor qui était souvent à la ramasse. Aujourd'hui ça a beaucoup évolué. On s'en rend plus compte, mais ça a évolué en 10-15 ans. Et je pense que c'est en partie par une nouvelle scène de restaurateurs.
Mais Jean-Gabriel, c'est ça, avec des adresses quand même, avec chacune leur identité. D'ailleurs, les uns et les autres, vous n'êtes pas forcément sur le même créneau, si j'ose dire, avec, même si on se retrouve sur des évidences qui sont la qualité, les produits, l'accueil dont vous parliez tout à l'heure. Jean-Gabriel Debeuil, vous, l'histoire, elle commence en 2002. En tout cas, cette histoire-là, celle de la Compagnie des établissements du patrimoine parisien, ça on impose, CEPP. Et vous, ce qui vous intéresse, ce sont les adresses historiques. Au départ, vous faites école hôtelière œnologie. Pourquoi vous vous intéressez presque, on allait dire, à ces établissements en perdition?
Alors, moi, je suis associé, c'est une entreprise familiale. J'y tiens avec mon beau-frère Dominique Paul, capital 100% indépendant, aucun partenaire financier. Donc c'est une petite PME familiale. C'est un acte de résistance, le ras-le-bol de voir des adresses mythiques et historiques à Paris. Nous sommes avant tout des amoureux de Paris. Donc la restauration, notre vecteur, c'est essayer de défendre ce patrimoine et de venir faire un acte de résistance en sauvant des adresses mythiques, de l'oubli, en évitant que ça devienne une pizzeria ou un magasin de chaussures. Et quand on a de l'argent dans les poches et qu'on a un peu de temps pour le faire et qu'on a des banquiers sympathiques, on essaye de relever le défi.
Je veux dire, vous avez sauvé la peau de pas mal d'adresses qui allaient disparaître. Alors la première, c'est le Bistrot de Paris.
On a fait le Bistrot de Paris en
2002. Le Bistrot de Paris, c'est rive gauche, on est du côté de la rue de Lille.
On est dans le carré rive gauche, carré des antiquaires. On est tout lié à la NRF, à Gallimard. Moi, je pourrais écrire un livre sur chaque affaire que nous avons reprise.
Mais il faut le faire.
Oui, mais plus tard.
Julien Fred, vous gérez.
J'ai mon copain qui est éditeur.
C'est ça, BFM.
Mais c'est ça. Les entretiens de JD et Valérie ont été écrits au Bistrot de Paris. On a encore aujourd'hui tous les auteurs de chez Gallimard, le Centre National du Livre, Sciences Po, la Fondation Charles de Gaulle, une grosse clientèle politique avec le Parti Socialiste. C'est un morceau de Paris, de son histoire.
Et c'est un chromo de bistrot aussi. Il faut rappeler que le lieu, c'est vraiment la carte postale du bistrot parisien. On la fantasme, elle va bientôt disparaître s'il n'y a pas de ces adresses qui sont sauvées. Quand on rentre au bistrot de Paris, les banquettes, la sonorité, c'était, je crois, un décor slavique.
Alors, Slavik l'a retouché. C'est un décor d'origine. Il l'a retouché avec une extension en 65.
Voilà, qui lui aussi était un grand décorateur qui retouchait un peu comme ça. Donc, c'est vraiment un monument, un lieu de mémoire, comme on dit. C'était aussi historiquement le bistrot de Michel Oliver, le fils de Raymond Oliver. Donc, c'est toute une histoire. Donc ce bistrot de Paris.
Alors, on va peut-être pas avoir le temps de tous les faire.
En tout cas,
non,
mais
oui. Ben voilà, chez René, chez Georges, chez Fred, chez Samy.
En deux mots, c'est le fil conducteur. Quand on a repris René après, c'est Giacometti avec Caroline, sa dernière muse de 58 à 63. C'est Revel, c'est le Collège de France, c'est François Mitterrand avec Mazarine, c'est Juliette Gréco. Voilà. Et moi, c'est tout ça qui me fait rêver, qui m'anime, et c'est des lieux de mémoire. Et nous, avant, c'est multifactoriel la restauration, avant de servir un très bon vin, une belle assiette. Nous, avant tout, on veut continuer à faire vivre le mythe, raconter leur histoire aux Parisiens. Et voilà,
si les touristes, le monde entier, les cousins de province.
Quand on, la province qui plébiscite encore ça, évidemment les étrangers, les Parisiens. Quand on a repris Georges, c'est pareil.
Rue du
quartier
Marais.
Bresson, Colette, Cocteau, André Malraux, quand il était ministre de la Culture. J'ai encore des clients Là, dans le magazine littéraire, bon, il est sulfureux, mais Mads Neff fait un petit tweet en disant « J'étais avec tel éditeur chez Georges pour réhabiliter un philosophe sulfureux que la Sorbonne boycotte ». Moi, tout ça, ça m'anime. On a une grosse clientèle politique, d'écrivains, tout ça. Belmondo chez René, bon, plein de...
Écrivez vos bouquins, Jean-Gabriel.
J'ai mon éditeur, Julien, déjà.
Le restaurant considéré comme une nouvelle maison de la culture, un lieu de loisirs. Pour vous, réhabiliter les lieux de mémoire. David Lader,
c'est un peu
les
deux, moi, parce que je me retrouve dans Julien.
C'est la synthèse.
Non, moi, je l'ai fait par défaut parce que j'étais un peu Charlot à l'école et je voulais pas travailler. Je l'ai fait par défaut parce que ça me plaisait et que j'ai cru un seul instant que ça allait être facile.
Ouais, mais sauf que quand même, depuis, vous en avez dit, ça commence l'histoire octobre 2009 avec Racine.
Racine de Paradis.
Attendez, j'ai cité Racine. Racine de Paradis, Vivante Table et Cave, Racine New York, La Crèmerie, Café Stern, Bon Saint pour Saint.
L'hôtel Panache, bientôt.
L'hôtel Panache, ça c'est dans les prochains jours, là.
15 jours, on ouvre, voilà. Etc. Donc c'est un petit peu les deux. Moi, et on a aussi repris des lieux comme le Bon Saint pour Saint, qui a 500 ans d'histoire bistrotière, et qui allait être aussi transformé en je sais pas quoi. Donc,
Bon Saint pour Saint, rive gauche, ou près de Jardin du Luxembourg. Ouais. Mais vous dites, c'est un peu la synthèse des deux.
C'est un peu la synthèse des deux.
Sauver quelques bistrots de mémoire, et puis.
Quand
vous créez le Racine, Passage des Panoramas, qui est un passage un peu crevard, en termes de gastronomie,
il ne se passe
rien. Aujourd'hui, c'est la nouvelle veine gastronomique parisienne.
On dit que c'est le passage du goût.
Qu'est-ce qui vous a animé, vous? C'était quoi pour vous un restaurant? C'est quoi aujourd'hui un restaurant? Ça doit être quoi? À la fois un lieu de vie, un lieu de culture?
Ça doit être tout. Ça doit être l'assiette. Moi, l'assiette d'abord. C'est vraiment ma passion et ce qui m'habite. C'est vraiment les produits et la cuisine. Et voilà, on commence toujours par trouver un chef et après on décline autour de lui.
C'est comme ça qu'on fonctionne.
C'est comme ça. Et du coup, j'ai pas de soucis de chef, j'ai pas de soucis de personnel, j'ai pas de turnover chez moi, et j'ai des gens fidèles. Je recrute, c'est ma seule recette du succès. J'essaie de recruter les meilleurs et je leur fais confiance. On leur fait des beaux endroits, on investit, on leur fait des belles cuisines, ils travaillent les plus beaux produits, ils restent, ils sont heureux et épanouis.
David, ce qui est intéressant, c'est que dans vos adresses, si on cite le Racine, si on cite le Paradis, si on cite la Crèmerie, le Café Stern, qui sont des lieux souvent tendance, mais dans le bon sens du terme, installés dans des quartiers qu'on n'attendait pas forcément.
Mais durable.
Le deuxième, le dixième, souvent des lieux forts aussi en termes de décoration, on va y revenir. Vous avez fait appel notamment pour le Café Stern et le Racine 2 à Philippe Stark, mais pas que. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 15-20 ans, sur ce genre d'adresse, on était justement dans la forme, beaucoup de décors, belle ambiance, belle humeur, mais l'assiette était un peu à la traîne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut que l'assiette soit pas à la traîne, mais au diapason, c'est important.
Ah oui, c'est vital. Ouais.
Ça veut dire que le public a
monté
le niveau,
pour
le niveau baisse partout. Est-ce que le public parisien, aujourd'hui, a un palais qui s'est amélioré?
Bien sûr.
Plus exigeant.
C'est la capitale aujourd'hui la plus dynamique dans le monde. Je vais fréquemment à New York, j'essaie de faire un projet à Londres. En ce moment, Paris, c'est exceptionnel, ça bouge, il y a une concurrence incroyable. Ouais, il faut être hyper fort dans nos adresses.
C'est ce que vous me disiez la dernière fois qu'on s'est vu, c'est vous avez aussi bénéficié finalement d'un moment,
de la médiocrité générale
il y a quelques années.
Et de l'ouverture des restaurants, et des mauvaises pizzerias, et des mauvais trucs.
C'est ce que vous aviez ressenti, bien sûr.
Maintenant, je dirais que on parle d'histoire, il faut durer dans ce métier. Moi, je vois, et j'essaie d'avoir encore un peu un œil extérieur, et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier parce que à un moment, ils ont l'impression que c'est facile. Ils voient la réussite, et puis ils voient des gens comme nous, qui ne vient pas de ce métier-là, mais toi, t'as fait une reconversion, c'est bien, c'est super, je vais ouvrir quelque chose. Non, c'est un métier de chaque instant. Moi, je travaille du lundi matin au dimanche soir, je m'arrête pas, mais c'est parce que c'est ma vie et que j'adore ça. Bon, j'ai une autre vie à côté, bien sûr, je suis une famille et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un métier, on doit être habité par ça. Et il y a un moment, on voit beaucoup, beaucoup d'affaires naître avec des monoproduits, des monochoses, et
je dis,
on fait pas un métier de concept. On fait de la preuve, on fait pas un métier de concept. On va dans un endroit parce qu'on a envie de vivre quelque chose. Moi, je crois à ça. Quand je vais chez Jean-Gabriel, je sais pourquoi je vais. Quand je vais chez David, je sais pourquoi j'y vais. Et j'y vais pas de temps en temps, je vais dans une adresse parce que je sais que j'ai juste envie de manger une petite tapas ou un petit truc sur le pouce. Et de temps en temps, j'ai envie de vivre un moment avec une expérience. Et je pense que Bon, David a raison, l'assiette est importante, mais je crois qu'il faut pas non plus se focaliser que là-dessus, parce que on a beaucoup aujourd'hui de jeunes chefs qui viennent et qui se focalisent beaucoup sur l'assiette, mais il y a un moment, ça peut être très ennuyeux, l'assiette. Même si c'est très bon, ça peut être très ennuyeux.
C'est l'alliance des deux. Et d'ailleurs, on va voir aussi peut-être, on va faire une petite pause sur BFM Business, on va voir ce qui vous rapproche les uns et les autres, parce que quand même, il y a des choses qui vous rapprochent dans toutes ces histoires, et c'est ce qui fait aussi, vous parliez, c'est, on est loin de la médiocrité, c'est peut-être la qualité qui vous rapproche. On se retrouve juste après.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Des goûts de chef et des luxes de chef d'entreprise pour une émission autour de la nouvelle génération de restaurateurs parisiens. Nous sommes toujours en compagnie de David Lanner, Jean-Gabriel Debeuil et Julien Foin. Jean-Gabriel Debeuil, je disais juste avant la pause, finalement ce qui vous rassemble tous avec vos adresses aussi différentes soient-elles, c'est quand même l'envie de faire les choses bien, bien évidemment, avec des produits de qualité, avec un décor de qualité, avec une histoire de qualité, puisque c'est votre histoire pour la compagnie des établissements du patrimoine parisien. Justement, quand on... lance là-dedans, c'est pas forcément évident de trouver le meilleur. Comment on fait pour le sourcing, pour trouver les meilleurs produits, les meilleurs chefs dont parlait David Lanner tout à l'heure?
Alors, nous, on a une génération de chefs vintage, old school, à l'ancienne, et je les salue et les remercie. Alors, bon, une génération de chefs qui ont tous entre 50 et 60 ans.
Mais qui vous suivent dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Mais alors, eux, moi, justement, j'ai été... un peu coaché par et influencé par des restaurateurs comme David et Julien sur toute l'approche sourcing produit, transparence, qualité, où ils ont été précurseurs et très forts. Et nous, ils nous ont réveillés un petit peu. Là, on commence à travailler avec des chefs pour, moi, apporter à nos chefs les techniques culinaires qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'un chef qui a 50 et 60 ans aujourd'hui, la cuisson basse température, tout ça. Aujourd'hui, et Julien m'a beaucoup aidé.
C'est intéressant ce que vous dites. Et d'ailleurs, durant la pause, on en parlait avec Julien. Vous qualifiez tous de confrères. C'est pas quelque chose qui, dans le paysage gastronomique parisien, a toujours existé. Il y avait quand même des luttes, parfois à couteau tiré, en off. Les restaurateurs, ça se désinguait. On a le sentiment, et pour vous connaître un peu tous, que vous êtes assez respectueux les uns des autres, que vous avez compris aussi que, tout en étant des concurrents, il fallait aussi que vous soyez des confrères, des collègues. C'est vrai, ça, Julien?
Oui,
vous dites, vous parlez entre vous, vous donnez des plans. David, je pourrais poser la question.
Je sais très bien ce qu'il fait, tout ce que tout le monde, parce que ce sont des amis dans la vie. On se connaît tous, donc et on est hyper, il me semble, hyper soudés, pas du tout de jalousie. Voilà, je trouve que
oui, je pense qu'on fait. On va dans le même sens. Ouais. Et c'est, comme je le disais, c'est pas facile. Donc on a plutôt intérêt à se serrer les coudes et à céder, parce que on fait ça aussi pour le bonheur de nos clients. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens repartent de chez moi et qu'ils me disent, on a passé un super moment. Merci, quoi. Il y a pas mieux. C'est comme le théâtre. Tous les jours, on rejoue sur scène et tous les jours, on doit être bon. Et donc, il faut qu'on cède.
Alors justement, pour rebondir un peu sur la question de Karine, sur ce sourcing, sur la façon dont, comment on conçoit un restaurant. Vous l'avez dit, Julien, l'important, c'est de durer, comme dans tout. Mmh. Mais si on prend votre dernière adresse, peut-être le Grand Cœur, qui va avoir 10 mois, installé du côté du Marais, dans la cour du Café de la Gare.
Exactement, tout 41 près, rue du Temple.
41 rue du Temple. Pour bien comprendre comment on lance un restaurant, vous disiez tout est important. C'est un jeu de puzzle qu'on doit réunir. Quand vous lancez ce Grand Cœur, ça commence quand? Avant le jour d'inauguration? 6 mois? 10 mois avant? Comment vous avez construit la déco?
C'est au moins un an. C'est au moins un an entre le moment où on trouve le lieu. Mais bon, déjà, il y a les hommes. Là, il y avait une histoire avec Mauro Colagreco, qui est un chef, grand chef, qui a 2 étoiles. Au Michelin à Menton, qui est un garçon que déjà j'aime beaucoup humainement et que je respecte beaucoup pour son talent et ce qu'il crée. Et on avait envie de faire quelque chose autour du végétal au début, parce qu'il a beaucoup de... moi j'adore le légume, et pas à l'impassard, on voulait faire un bistrot autour du végétal pour redire aux gens, voilà, qu'est-ce que c'est bon le végétal. Et donc Mauro a une cuisine très méditerranéenne et beaucoup sur le végétal, il a son jardin, on a dit on va faire ça, on cherchait un petit lieu. Et puis un jour on est tombé sur ce lieu extraordinaire, le Café de la Gare, et il était disponible, et on a dit on va changer un petit peu notre fusil d'épaule, on va faire une brasserie, et on a quand même fait ce petit restaurant végétal qui ouvre bientôt, où on a une petite table avec 20 couverts, où on
donc
va...
ça sera une table dans la table.
Une table dans la table, exactement. Mais on a voulu changer, donc on s'adapte aussi, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens, avec des contraintes,
là
on a un lieu extraordinaire. Oui, bien sûr.
Le grand cœur, c'est aussi une décoration.
Exactement. Donc, on a travaillé avec Brune de la Guérande, puis une architecte. C'est vraiment un travail d'équipe parce qu'on ne sait pas tout faire, mais par contre, on a une vision. Moi, je sais que j'aime bien les matériaux naturels. J'aime les produits naturels. Je suis venu à la cuisine par l'intermédiaire de mon premier métier où j'étais journaliste scientifique dans le domaine de l'écologie. Et puis, je suis venu à l'alimentation parce que j'adorais le bio et au goût après. Donc, j'ai découvert le goût des produits. Et donc, aujourd'hui, je suis dans ma trace. C'est-à-dire que je prends des matériaux naturels pour tout. On prend de la pierre, du marbre, du bois et on considère que c'est ça qui donne de la chaleur au client.
Même question.
Pour qu'on voit si c'est exactement. Si on prend Panache, il y a le prochain, celui du sourire. Ouais. Là, on est, c'est un hôtel aussi, je crois.
Hôtel et restaurant, rue du Faubourg-Montmartre. 44 chambres, 38 places au restaurant. Dorothée Médixon qui nous a fait le lieu, qui fait des lieux formidables aussi. Pareil, on a construit une histoire. Adrien Glohagen, qui a l'hôtel Paradis également. Grand ami à moi aussi depuis longtemps. C'est aussi des rencontres, toujours. Moi, je me dis toujours que je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Je fais que des jolies rencontres qui débouchent que sur des jolis projets. Voilà, et donc extrêmement facile. Et dans l'assiette, pareil, la même émulation. Alors, on n'a pas un chef venu de l'extérieur, mais des gens de chez moi qui voulaient. C'est mon ancien chef de sous-chef de Racine 2, qui après 4 ans avait envie d'évoluer. Donc aussi, ça arrive et on trouve des lieux pour eux. Donc c'est pareil, c'est le bon moment au bon endroit et voilà pareil. Donc je sais qui il est, il est avec nous depuis longtemps et ça va rouler.
Quel genre de cuisine? Pareil, on prend les bons produits
oui,
de saison.
Les produits, on les connaît tous, on les cherche tous tout le temps, mais on a aussi évidemment les plus belles appellations, les plus belles choses, l'accès à tout, la curiosité. On cherche tout le temps, on s'échange des adresses. Je vais découvrir le pain de Julien.
Il est venu me voir il y a deux jours. Vous êtes restaurateur, mais vous devenez, on voit les passerelles aussi.
Ouais,
quand vous parliez de maison de culture, vous devenez un peu hôtelier. Julien, c'est logique, quand on regarde repartir, vous parliez, vous aimez les produits, la nature, vous ouvrez une boulangerie aujourd'hui.
La boulangerie, c'est ce qu'on raconte. C'est-à-dire que nous, on avait un de nos directeurs et qui avait une passion pour le pain, qui avait travaillé chez Gérard Mulot, qui avait travaillé dans des boulangeries et qui, à un moment, au bout de deux ans, stagnait un peu dans notre affaire. Et c'était un garçon qui était jeune, mais avec beaucoup de responsabilités. On lui a dit, tu veux faire une formation pendant un an, tu refais ton CAP de boulangerie, on te suit pendant un an et tu vas devenir boulanger et on va essayer de faire le meilleur pain pour d'abord nos restaurants. On avait 7 restaurants, on va dire on va faire notre propre pain. Puis c'était une passion, on adore le pain. Et on a essayé de pousser, donc on a pris farine biologique de France, Île-de-France même, avec un petit moulin Gilles Matignon en biodynamie, farine sur meule. On fait notre propre levain naturel, on fait des temps de pousselon. Enfin voilà, on essaie de faire un produit de qualité. Et
ça s'appelle du pain. Vous nous avez amené quand même.
Quel pain?
Ouais, je vous ai amené,
la petite baguette. Alors, logique, mais celui-là, c'est assez étonnant, celui avec
alors
les
ça,
graines.
C'est le pain du cirque, on est à côté du cirque d'hiver, donc on a créé le pain du cirque et Monsieur Bouglione vient nous acheter, puisqu'on parle d'histoire, vient nous acheter le pain du cirque, parce qu'on a créé un pain spécifique avec la forme d'un cirque.
Et
c'est un pain qui dure une semaine en fait, parce qu'en fait on a fait un mélange de seigle, de sarrasin et de blé, voilà, de meule ancienne.
Donc, et puis alors il y a la chose dont on n'a pas encore parlé, et pourtant qui est hyper importante aussi dans vos adresses, c'est le vin. Et alors ouais, là, c'est vrai que là aussi, vous bougez, vous investissez. Et Jean-Gabriel Debeuil, là, du coup, vous avez votre vignoble.
Oui, alors nous, moi, je suis passionné de vin, évidemment, comme mes deux compères. Et bon, il y a un moment, c'était la logique, l'hôtellerie, le pain. Nous, on a jeté notre dévolu en reprenant sa vie. On a élargi un petit peu, on a rencontré un garçon qui s'appelle Mathieu Dumas et on l'a pris avec nous dans cette aventure. Et on a racheté un vignoble à Chenat, je crois beaucoup dans le Gamay, quand on le vinifie à la Bourguignonne.
Juste
en face de Moulin à Vent. On a convaincu un copain qui est un grand vigneron du Beaujolais, que tu connais, qui est Dominique Piron. C'est lui qui va faire le vin et on voulait faire un vin... C'est important ce que je dis, l'esprit bistrot, c'est aussi... c'est très facile de faire très bon, très cher.
Le prix, justement,
je trouve c'est important d'essayer de faire bon et pas trop cher. On aime bien dans nos bistrots avoir un petit retraité qui habite la rue à côté, qui peut manger avec un billet de 20 euros un repas, et puis aussi avoir une carte, ou si quelqu'un a envie de s'éclater, qu'il puisse le faire, comme chez Georges, ou parfois avec la cave qu'on a, il y a des additions un peu délirantes.
Chez Georges, mais une adresse qui est intéressante, parce que vous parliez de ce vignoble pas loin du Beaujolais, vous avez repris il y a à peu près un an. Sa vie, vous venez de le reprendre. Sa vie, c'est la brasserie installée rue Bayard, mythique. On l'appelle la brasserie des grosses têtes, juste en face d'RTL. Vous avez repris il y a un an chez Fred, 17e. Alors vraiment, là, c'est intéressant de voir comment vous avez travaillé, parce que vous reprenez et sauvez la mémoire de l'adresse. Mais comment les éclaircir? Chez Fred, c'était l'un des plus beaux bouchons lyonnais parisiens. Puis c'est devenu l'un des pires bouchons lyonnais parisiens. Donc c'est vrai qu'il y avait une mémoire, mais l'assiette traînait. Et c'est vrai que depuis que vous l'avez repris, comment on arrive à éclaircir, redonner de l'envie, du rythme, du ressort et d'adresse pareille. Et j'en parle chez Fred parce que c'est l'une des plus belles cartes de Beaujolais de tout Paris. Ouais. Hallucinante la cave. Vous voyez la vie en rouge là.
Alors Emmanuel, je me souviens, mais il est là, Jean-Gabriel, vous prenez un risque en faisant ça. D'abord parce qu'on a dit on va refaire un bouchon lyonnais comme en 45. Puisque monsieur et madame Fred avaient créé ce bouchon après la libération. On va faire une carte 100% de gamay avec tous les crus du Beaujolais. Et puis on va faire les saladiers lyonnais, pas cher, tout ça, avec encore le tablier de sapeur et toutes ces choses-là. Alors que c'est pas du tout la tendance du moment. Mais par contre, sous l'influence de mes camarades, on s'est décarcassé. On a pris un chef qui a travaillé avec Bocuse. On fait des choses simples, traditionnelles, mais avec un bon sourcing produit. On va chercher les produits à Lyon. Donc on essaye de rester dans la tradition. Et puis toujours dans cette même veine, nous on a racheté Fred sur un coup de cœur. On a découvert avec Gallimard dans la Pléiade que c'était la cantine de Georges Simenon. Les presses de la Cité avaient fait une plaque dans le restaurant. J'ai eu une photo chez Gallimard de Simenon dans sa bibliothèque. Et c'était parti, j'avais la dimension littéraire. C'était collé à l'histoire. Bon, alors après, c'est bouchon lyonnais. Voilà, c'est pas l'expérience gastronomique qu'on peut aller trouver chez David ou chez Julien.
C'est une expérience. Moi, j'adore le gamay, j'adore Lyon.
Vous êtes moitié lyonnais. C'est facile de dire ça. Non, mais sincèrement. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement aussi, avec ce travail-là et tous ces filons de ces restaurateurs, dont on le voit, hein, ils bossent tous, ils sont discrets, ils se montrent pas beaucoup, ils sont pas très médiatiques. Aujourd'hui,
ils sont très discrets, pas facile
de les mettre sur le devant. Ils sont très discrets, ça veut dire qu'ils bossent. Mais je crois donc que le travail que vous avez fait, notamment avec tous vos bistrots, est en train de redonner un appétit, une appétence de la part du public à cette cuisine que l'on pourrait qualifier de vintage. Aujourd'hui, les gens ont à nouveau envie de plats de chauffe, de plats de corps, de plats de gueule. Quand on va chez René, c'est un radiateur pour l'hiver. Alors c'est vrai que la cuisine lyonnaise va arriver le printemps, l'été, c'est un peu moins facile, mais croyez-moi, l'hiver, vous êtes ravis de recoller à ce genre de gastronomie. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi des restaurateurs qui ne s'interdisent plus rien. Et comme vous dites, il ne faut pas confondre deux types de restaurateurs. Ceux qui sont dans le concept, et il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est une vraie fausse restauration qui durera le temps d'un concept, qui aura le destin d'une feuille morte, et puis cette génération qui creuse le sillon dans la foulée, on pourrait citer
allez,
d'autres,
j'aimerais terminer quand même rapidement, Emmanuel, on va laisser la parole, on va vous laisser conclure, mais j'aimerais terminer sur cette histoire de vin. Vous disiez, vous, on comprend pourquoi vous avez investi dans le vignoble.
Alors, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est faire un vin de qualité qui ressemble à nos bistrots. C'est un vin de bistrot, le gamay, c'est un vin de grande qualité, pas cher, et on va faire un vin qu'on va vendre dans nos bistrots et à nos amis pour ceux qui veulent. et donc voilà, et puis c'était un rêve de gosse, et puis ça permet, quand on est dans la tumulte parisienne tout le temps, à un moment de prendre un billet de train, de descendre à Mâcon. Dominique Piron, il vient avec sa voiture et il y a une parenthèse enchantée.
J'ai tout compris, Garine.
Du pain, du vin.
On aime bien picoler tout ça.
On a créé du vin, il y a peu de temps, et on crée une cave dans un mois qui va ouvrir, parce que nous, c'est pareil, voilà, on adore le vin. Je suis venu d'ailleurs beaucoup à la restauration pour le vin, surtout j'avais écrit un guide en 99 sur le vin bio. J'ai toujours défendu ça depuis très longtemps, pour la qualité avant tout. Je rêve aussi un jour d'avoir un vignoble, j'ai pas encore franchi le pas.
J'ai compris, Karine. Toi même, à la fin, j'ai compris. En fait, c'est un réseau, c'est un monde parallèle. Ce sont des serial restaurateurs, comme vous avez dit. Donc il y en a un qui prend de la vigne, comme c'est refourgue à son pote, l'autre il fait du pain, il refourgue à son pote. Lui, il a toute la filière des décorateurs. Bah, venez les gars, j'ai compris, c'est une petite mafia. Mais une mafia voluptueuse et vertueuse.
David, le vin chez vous, c'est aussi beaucoup du bio, du naturel?
Oui, bien sûr. Oui.
Racine,
et puis le vin, c'est le meilleur allié de la gastronomie. Donc moi aussi, j'ai toujours été fou et passionné de vin. Donc moi aussi, je rêverais un jour d'acheter un petit vignoble et faire des petites choses, etc. C'est pas d'actualité, mais j'adorerais.
Non, parce qu'en attendant, vous avez quand même Racine à ouvrir à New York, à San Francisco, à Lisbonne, c'est ça?
C'est ça, bien sûr, mais non, j'adorerais, mais non, le vin,
c'est... Ah oui, c'est que vous, on a pas eu le temps, mais on vous réinvitera, c'est que aujourd'hui, cette matrice des nouveaux restaurateurs parisiens a un talent à s'exporter.
Eh ben voilà.
Racine, New York, ça fait 2 ans maintenant, c'est un immense succès, et on est en train de réfléchir sur un autre, pas forcément Racine, mais un autre projet à New York, là, pour cette année, ça, c'est évident.
Julien, t'es une adresse à Lyon?
Non, on n'a plus le temps.
On y réfléchit.
Merci infiniment.
Beaujolais, Gabriel.
Beaujolais. C'est difficile, c'est fascinant, l'histoire d'ouvrir des... Parce que... mais après, c'est un... Quand tu fais ton métier comme un artisan, où tous les jours tu passes dans tes affaires, et quand tu me croises avec mes paniers de légumes, de trucs et tout, je pense qu'à un moment, et le point commun, et moi je le sais, parce que en fait, on fait des restaurants qui nous ressemblent à chacun. Julien Font, il ressemble à ses restaurants, il fait des restos où il aimerait être client. Moi, je fais avec Dominique des restaurants qui nous ressemblent. On a gardé les nappes. Il n'y a plus de nappes. Il y a un vrai sujet sur les nappes, d'ailleurs. Et lui, il fait des restaurants qui lui ressemblent.
C'est le mot de la fin. Mais sincèrement, c'est des bosseurs. Moi, qui parcours tout Paris, qui fais tout récent, c'est des gens que je peux voir comme ça, apercevoir, soit avec leur panier, soit carrément à passer le balai. C'est-à-dire qu'on pourrait citer aussi dans cette veine-là des Tsérikos qui le matin vous les voyez encore, alors qu'ils ont 10-20 adresses à faire le boulot.
Mon associé Ludovic Dardenne le fait aussi.
D'ailleurs, j'ai eu quelques remarques de clients qui ont dit qu'il est parti quand même très vite avec peut-être une émission de télé.
On n'a pas le temps de reciter les 20 à peu près, 20 et quelques adresses que vous avez à tous les trois, mais voilà, tout ça on retrouvera dans Paris et surtout on va tester chez vous David Lanner, la prochaine Panache le 21 mars, du pain, du vin et des bonnes adresses avec vous Julien. Merci beaucoup à vous et Jean-Gabriel Debeuil, merci beaucoup à vous. J'adore la compagnie des établissements du patrimoine parisien. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, restez avec nous, c'est l'agenda dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe high-tech dans un instant, mais tout de suite, c'est le livre de la semaine, ou plutôt les livres de la semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petits guides sur Paris, et en voilà deux d'un coup. Je commence par le plus chic, quoique, non, je commence par le plus attendu, quoi qu'il soit bien quand même. Paris, 10 parcours parisiens, c'est le Shangri-La Hotel Paris qui a travaillé. Ce ne sont pas que leurs adresses, bien entendu, ce sont des petites flâneries par quartier, par thématique. Donc on commence autour du Shangri-La, ça c'est assez logique, autour de l'avenue d'Iéna. Sauf qu'on a aussi le parcours romantique, on a aussi Saint-Germain-des-Prés, on a aussi le parcours autour des enfants, le Paris bourgeois, le Marais vivant, sur les pas des chineurs, on va jusqu'aux puces. Assez complet, franchement, il y a plein d'infos dedans. Le petit guide qui tient dans la poche, c'est Laurence Gounel qui l'a réalisé. Et voilà, ça donne un petit peu.
On peut même l'avoir gratuit. Simplement, il faut prendre une chambre.
Et voilà, c'est ça, c'est ça l'idée.
C'est compliqué.
Donc voilà. Mais voilà, réussi, ça, c'est le petit guide. Il est très réussi, vraiment plein d'infos. Et c'est le deuxième, vraiment plus étonnant. La maison Astier de Villatte, vous connaissez sans doute Yvan Péricoli et Benoît Astier de Villatte. Au départ, ils ont une boutique. Ils font plutôt de la céramique, des collaborations sur des beaux objets. Et là, ça, c'est un bel objet. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un vieux roman avec cette couverture dorée. Ça s'appelle « Ma vie à Paris ». Tout simplement, c'est les éditions Astier de Villatte. En fait, il y a quelque temps, ils ont racheté une imprimerie. Et donc, ils ont travaillé avec eux pour faire vraiment un guide pratique imprimé sur presse typographique à l'ancienne. Donc c'est vraiment à l'ancienne, vous n'avez que des images en noir et blanc, on a l'impression
d'ailleurs toutes même les quand tranches on sont sent... dorées à chaud, c'est voilà. Vraiment
et
l'esthétique
ça sent ouais. Le vieux bouquin.
C'est l'esthétique des bouquins tels qu'on les faisait fin du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. On a l'impression que c'est un ouvrage de bibliophilie alors que c'est un ouvrage très contemporain. C'est vrai que les codes de typo sont énormes et puis derrière, il y a quand même un joli Paris raconté en manière de guide.
312 pages et surtout, on n'est pas bien sûr, il y a les boutiques, il y a les restos, il y a toutes ces adresses-là. Mais ça va de A comme acupuncteur à Y comme yoga, en passant par leur marchand de couleurs, en passant par, que sais-je, du vin, du bistro, etc. Du vin, ouais. Des petits plans à la fin, ça reste quand même un guide pratique et c'est vraiment un vrai coup de cœur pour ce petit guide. Ma vie à Paris chez Astier de Villatte, un superbe cadeau à faire.
Voilà. Pour Pâques, on fait des cadeaux?
Oh, pour Pâques, on peut faire des cadeaux. Les cloches, ça mène plein de choses. Voilà, vous y pensez pour définition. Le week-end prochain. Allez, la chronique high-tech.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Christopher Siminelli, bonjour.
Bonjour Karine.
Notre chroniqueur high-tech de la maison mère de chez 01net. Vous êtes venu avec quelques objets, trois objets black aujourd'hui.
C'est la moisson du mois, voilà.
C'est la moisson du mois. Et on commence par une montre, mais quelle montre?
Oui, alors ça vient de sortir, c'est une montre lancée par TomTom, vous savez, qui est plutôt spécialisée dans les GPS, mais ils font aussi des montres, et des montres pour les sportifs. Alors elle s'appelle TomTom Golfer 2, et elle va clairement faire le bonheur de tous les golfeurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent ici. Alors clairement, en termes de design, on est loin d'une Apple Watch, hein, elle est un peu moins jolie, mais qu'importe, vraiment le seul objectif de cette montre, c'est de vous aider à améliorer vos performances sur le parcours de golf. Alors, comment ça marche? Cette montre, elle embarque une puce GPS qui fait qu'elle vous géolocalise de manière très précise sur le green, parcours. Sur le parcours. Et vraiment de manière très précise, j'insiste, parce qu'elle embarque les parcours, enfin les plans de 40 000 parcours à travers le monde. Donc voilà, c'est exactement. Si vous vous situez à ce point-là, c'est que vous êtes à telle distance du trou final. Donc l'idée, c'est que la montre, elle va vous conseiller de prendre tel club ou tel autre. Et elle va vous dire, visez plutôt telle distance pour être vraiment bien positionné.
Ah, c'est presque un coach.
Exactement. Alors, on peut même aller plus loin, justement. C'est vraiment un coach. Une fois, parce qu'elle est couplée avec une application TomTom, à la fin de la journée, vous synchronisez la montre avec votre application. Et là, l'application va vous dire les coups que vous avez bien réussi, ceux que vous devez améliorer, et va vous aussi comparer vos performances avec celles d'autres golfeurs qui sont venus sur le même parcours. Donc c'est vraiment très sympa, et elle sera disponible au mois de mai à 249 €, ce qui finalement n'est pas si cher que ça quand on regarde
ses performances. C'est pas
exactement.
Mal.
Exactement. Et ça coûte moins cher qu'un vrai coach.
Ouais, exactement. Quand on voit le prix d'un coach de golf, finalement, on se dit pourquoi pas.
Ça s'appelle TomTom Golfers 2.
C'est ça. C'est TomTom Golfer 2.
Alors, un appareil photo Olympus. Là aussi, on parlait d'un super beau bouquin qui ressemble à un bouquin à l'ancienne. Là aussi, ça ressemble à un Olympus
à
l'ancienne.
Le vintage est plus que jamais à la mode. Cet appareil nous a vraiment tapé dans l'œil. Il est vraiment superbe. Alors, on reconnaît bien le style des appareils d'époque, mais pas de n'importe quel appareil. On parle de l'Olympus Pen, qui est un appareil mythique chez les photographes des années 60, donc qui reprend totalement l'esprit. Il faut vraiment regarder de très près pour trouver du plastique sur cet appareil. On a que du métal, du simili-cuir. On a vraiment l'impression de retrouver l'appareil photo de ses grands-parents ou de ses parents. Donc, le look, c'est bien, mais techniquement, il est bien dans les années 2000 et 2016.
Parce que voilà.
Évidemment, c'est un numérique. Il embarque le meilleur de la technologie et notamment un petit raffinement qui est très attendu, c'est un viseur. Voilà, on a remarqué que les viseurs avaient tendance à disparaître des appareils photo. Ils font leur apparition et clairement, aujourd'hui, avoir un viseur sur un appareil numérique, c'est un luxe et c'est vraiment un vrai plus. Donc, on peut vraiment shooter un peu à l'ancienne, mais les photographes vous confirmeront.
Il n'y a rien de mieux qu'un appareil argentique.
Exactement, il n'y a rien de mieux qu'un viseur, un vrai viseur pour prendre de jolies photos.
On l'avait presque oublié.
Juste quelques petits points, côté capteur 20 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour faire de très beaux tirages sur papier. Le prix 1 200 €, mais voilà, on se trouve, on est un peu dans la fourchette des appareils de ce niveau de qualité. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cet appareil.
Et surtout le test complet sur 01net.com, comme ça vous avez toutes les infos testées et approuvées. Et puis vous nous avez amené Christopher. Un parapluie, bon, il fait plutôt beau en ce moment, mais sauf que celui-ci, il peut quand même vous être utile.
Alors, ce parapluie qu'on a là sur le plateau, il ressemble à un parapluie totalement banal.
Et alors, un parapluie de golf, il est quand même assez long.
Oui, exactement. Donc, il n'est pas high-tech au sens bourré d'électronique, mais pour concevoir ce parapluie, ça demande une telle ingénierie, une telle ingéniosité que finalement, on est dans la nouvelle technologie. Ce parapluie, il s'appelle le Parapactum. C'est un parapluie blindé créé pour la protection rapprochée des personnalités et des chefs d'État. Oui, vous avez bien entendu. Alors, comment ça se passe? Comment ça marche? Donc, la toile est en Kevlar, donc un tressage de Kevlar ultra résistant qui, par exemple, vous permet d'éviter les jets de pavés de 3 kg, des jets d'acide, des jets de torches enflammées, des coups de couteau ou encore des tirs d'arbalète ou de fusil à plomb. Et donc, ce parapluie est actuellement utilisé par les services de sécurité de François Hollande. Donc, vraiment, c'est très intéressant.
Il a beaucoup servi au dernier salon de l'agriculture.
Ouais, et pour la
petite info. C'est un peu le vieux rêve de John Steele, vous savez.
Mais c'est ça.
Chapeau melon, bottes de cuir.
Exactement. Alors, pour la petite info, ce parapluie est fabriqué en France par les fameux parapluies de Cherbourg, à Cherbourg, et donc en quantité très limitée. Et donc, on a parlé des matériaux, il est fabriqué à la main, vraiment, avec du Kevlar, du titane, et un mât en fibre de carbone. Alors, malgré cette ingéniosité dans les matériaux, il pèse quand même 2 kilos. Hein. 2 kilos, c'est pas rien.
C'est ça pour protéger. C'est donc, le prix de la protection.
Ouais, exactement.
Il y a des formations.
Voilà.
Et le service de protection de la présidence a des formations dédiées au parapluie.
Je peux le garder. En sortie d'émission,
j'ai un peu
qui me chope pour me faire quelques reproches. Là, équipé de ce parapluie, je vais pouvoir me défendre.
Si vous avez 10 000 €, oui, vous pouvez le garder.
Alors, deux petites anecdotes sympas sur ce parapluie. On n'appelle pas ça un parapluie, évidemment, dans l'entourage du président. On appelle ça un dôme de protection. Protection multidirectionnelle à déploiement instantané. Deuxième petite anecdote, évidemment, il fallait cette toile la coudre, et donc ils n'ont pas réussi avec les machines à coudre traditionnelles à le coudre. Pourquoi? Parce qu'évidemment le matériau est très résistant. L'aiguille ne passait pas la toile.
Donc ils ont créé des machines à coudre.
Ils ont dû créer une machine à coudre spéciale pour pouvoir assembler ce parapluie.
Qui s'appelait Mitraillette.
Le mariage de l'artisanat français et de l'innovation, c'est quand même assez incroyable.
Un dernier mot sur le prix. On n'a pas besoin d'être président de la République pour avoir ce parapluie, mais il suffit juste d'avoir les moyens. On parle de quand même 10 000 euros.
Eh ben voilà, pour le parapluie.
Ça, si c'est blindé.
Eh ben comme ça, on est blindé avec vous, Christopher Siminelli. Merci infiniment à vous. Allez, l'agenda, rapidement.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Très rapidement, une info chacun, Emmanuel.
Ah, une info chacun, une info Cyril Lignac.
Oui,
c'est
ça faisait longtemps.
Ouais. Alors on sait qu'il a des restaurants, on a vu qu'il avait vraiment travaillé à la pâtisserie avec son associé Benoît Couvrant, et le voici donc désormais du côté de la chocolaterie. Il ouvre d'ailleurs au 25 rue Chancy, c'est cette semaine à Paris dans le 11e. La chocolaterie, tout simplement, Cyril Lignac, Benoît Couvrant, on va voir ce qu'il vaut cette fois-ci après la pâtisserie, après le restaurant, et après les histoires de cœur, ce qu'il vaut en chocolat, à mon avis, ça devrait marcher aussi.
Eh ben justement, il a sorti son œuf de Pâques.
Le petit Sophie
Non, des œufs de Pâques. Et vous savez qu'en début d'émission, je vous présentais toute une sélection. Et donc là aussi, l'œuf de Pâques, Cyril Lignac, tout simple, efficace. Et je termine aussi ce week-end, une bonne action, ça fait pas de mal. C'est le week-end du jour du macaron. Vous allez chez Pierre Armé, vous allez dans les pâtissiers relais et desserts. Vous faites un petit don pour l'association de lutte contre la mucoviscidose et en échange, on vous offre un macaron délicieux, plein de parfums qui sortent à cette occasion. Voilà, un don, un macaron, ça fait pas mal. On finit sur cette bonne action. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour d'autres goodies.
En
attendant, restez encore un petit peu avec nous. C'est le best-of de la semaine, à tout de suite.